C'était un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues.
C'est lui l'organe?
Ouais. L'organe d'Oshkaga.
Non, mais là, à ce moment-ci, c'est un gros organe, mais qui chante pas fort.
C'est ça, très retenu. Non, c'est-à-dire qu'il chante en nuance.
Voilà.
Le vaisseau d'or, évidemment, c'est... Il y a des gens qui pensaient peut-être à l'ancien restaurant du maire Drapeau.
Ouais.
Le maire Jean Drapeau, rappelez-vous, avait eu, dans une certaine controverse, n'est-ce pas, Thérèse,
ouais,
et Marc et François, avait eu le restaurant Le Vaisseau d'or.
Ouais.
Évidemment, oui, en hommage à ce poème de
Neil Gant. Poème extraordinaire de Neil Gant. Moi, c'est drôle, hein? Puis ça, j'espère que... Ben, je le sais que ça existe encore. Moi, c'est un prof de secondaire 1 qui m'a fait découvrir Neil Gant, puis Prévert, puis plein d'autres poètes. Puis aussi le théâtre de Marcel Dubé, puis Michel Tremblay, puis tout ça. Puis ça, dans mon cas, moi, ça a créé une espèce d'étincelle. Puis dans le cas du Vaisseau d'or, dans la production qu'on fait présentement, dans l'opéra Neil Gant, c'est la prémisse de toute la pièce, puisque Neil Gant, il a été interné presque 42 ans, hein, Émile Neil Gant.
Il a fini ses jours à cette institution, ouais, et il y avait tellement, c'était tellement lourd, ouais, quand on prononçait le nom de l'institution.
Ben oui, bien sûr.
Mais lui, Saint-Jean de Dieu.
Les 26 premières années d'internement dans une institution psychiatrique privée, puis les 15 dernières années à Saint-Jean de Dieu. Et puis, il a écrit ses poèmes de l'âge de 16 ans à 19 ans. Puis après, à partir du moment où il est enfermé contre son gré par son père, il a jamais réécrit un poème. Et puis donc, dans son cheminement, puis le temps qu'il a passé à Saint-Jean de Dieu, les gens venaient le visiter un peu comme une bête de cirque. Et on lui demandait, M. Neil Gant, récitez-moi le Vaisseau d'or.
Ah,
et donc, il récitait, ouais, le Vaisseau d'or.
Ah,
mais plus les années avancent, avec la médication, avec la maladie, tout ça, moins il se rappelle des mots. Et ça commence comme ça, l'opéra, c'est qu'il y a un visiteur qui vient le voir, il dit, faites-moi le Vaisseau d'or, puis il s'en rappelle pas de son Vaisseau d'or. Et tout le long, il repense à sa vie pour retrouver les mots du Vaisseau d'or qui termine l'opéra.
Alors, tu le fais, tu campes le personnage, appelons-le ainsi, d'Émile Neil Gant.
Vieux. Parce qu'il y a un jeune.
Dominique Côté, ouais, qui est un réputé baryton, d'ailleurs, ouais, Dominique Côté. Un
fabuleux collègue, lui, talentueux artiste.
Alors, lui, il fait Neil Gant
jeune.
Jeune.
À 19 ans. Donc, parce que Neil Gant est à l'asile, on vient lui demander de dire le Vaisseau d'or, il se rappelle pas des mots, il se rassoit sur son lit et dans sa tête part dans tous ses souvenirs. Et là, c'est là que le jeune entre, ses parents, ses deux sœurs, et on revoit des moments de sa vie. La première scène, par exemple, c'est quand toute la famille allait en vacances à Kakuna. Parce que dans ces années-là, Kakuna était un endroit exceptionnel. Il y avait un hôtel à Kakuna, le St. Lawrence Hotel, il y avait 1100 places. Imaginez.
Ouais.
Et c'était d'un chic, là, j'ai vu des photos de la salle à manger.
C'est encore une très belle région, par exemple.
C'est une région fabuleuse.
Ouais.
Alors donc, Mario Dumont, un jour...
Oui, c'est dans le bout de chez Mario, ça.
Mario m'a dit, sais-tu pourquoi ces hôtels-là ont arrêté de vivre?
Non.
Ben, j'ai dit non. Puis là, je m'attendais vraiment pas à la réponse. Il dit, à cause de l'air climatisé. Parce qu'il dit, les familles venaient des États-Unis, de New York, des grandes villes, parce que l'été, dans les grandes villes, tout le monde avait extrêmement chaud.
Il étouffait
dans les appartements parce qu'il n'y avait pas de climatisation. Donc, les gens venaient prendre l'air du large à Kakuna. Et à partir du moment où c'est arrivé, et c'est Mario qui m'a conté ça, là, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il a vu l'opéra, il est venu voir la pièce. Il me dit, ben, quand l'air climatisé est arrivé, tous les hôtels de cette région-là ont commencé tranquillement parce que les gens n'allaient plus là pour prendre le grand air.
Oh oui,
donc les
ça.
Gens se déplaçaient, faisaient plus ces grandes distances-là, ouais, pour aller.
Ils acceptaient la chaleur des grandes villes parce que c'était climatisé.
Exactement. C'est quand même fou de penser.
C'est complètement fou. Ça, c'est une explication.
J'aurais jamais imaginé ça.
C'est non seulement beau, c'est que l'été, c'est tellement bien aéré avec l'air du large.
Ouais. Il n'y en a pas besoin de climatisation,
exactement,
justement.
C'est un projet, Marc Neil Gant, c'est un projet que tu avais en tête depuis longtemps. C'est quelque chose dont, dont tu rêvais quelque part.
Oui. Je l'ai fait déjà deux autres fois. Oui. Je l'ai fait en 2010 pour l'Opéra de Montréal, puis en 2012 au Festival d'Opéra de Québec. Mais c'est moi déjà là qui étais allé voir le Festival d'Opéra de Québec. Il avait dit, hey, on fait-tu Nelly Gant? Et je me souviens que Grégoire Legendre m'avait dit, écoute, je veux faire ça, mais j'ai pas le budget, puis tout ça. Et vraiment, par un hasard incroyable, je croise à la Maison symphonique à Montréal Régis Labeaume, que je connais pas, mais je m'en vais le voir, je me présente, puis je lui parle de ce projet-là. Puis il me dit, laisse-moi parler à Grégoire Legendre à l'Opéra de Québec. Et puis des fois, on se fait dire ça, puis on se dit,
ben oui,
il vient de se débarrasser de moi. Eh bien, Régis ne s'est pas débarrassé de moi parce que ça a été fait. Et donc, Grégoire m'appelle, puis dit, écoute, on le fait. Et moi, suite à ça, imaginez, à la dernière, je demande à l'équipe du Festival d'Opéra, qu'est-ce que vous faites avec toute cette production-là? Ben, on jette ça au vidange, parce que on n'a pas d'endroit pour entreposer ça, puis tout ça. Puis je dis, moi, si je fais venir des camions, puis que je prends le décor, ça me coûte combien? On te le donne, Marc, on va le jeter au vidange. Alors, j'ai appelé des amis qui ont des compagnies de transport. Ils sont venus chercher ça le lundi matin, à la fin du festival. On a mis ça dans un entrepôt à Laval. Et avec ça, j'avais ça en tête en me disant, quel est le meilleur endroit pour faire Nelly Gant? Et je revenais toujours à la conclusion que c'était au TNM. Fait qu'un soir, j'ai dit à Lorraine Pintal, dans un événement bénéfice où je la croise, « Lorraine, j'ai un projet, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Appelle-moi cette semaine. » Et croyez-le ou non, pendant un an de temps, on s'est laissé des messages sur nos boîtes vocales. « Ah, c'est Lorraine, rappelle-moi. Ouais, c'est Marc, rappelle-moi. » Un an plus tard, au même endroit, à la même soirée bénéfice, on se croise, elle dit « T'avais pas quelque chose à me dire? » Je lui dis ça, bon. Et le lendemain, elle me rappelle, elle dit « Marc, j'ai pensé à ton affaire d'hier. Ouais. Viens me voir, j'aimerais ça qu'on regarde ça. » Et puis, deux ans et demi plus tard, nous, on est en train de le faire.
Depuis le 14 janvier.
Exact. Donc, tu sais, c'est de se dire, il n'y a rien d'impossible.
Non. Qui va? 9 supplémentaires à ce jour.
Oui, d'ailleurs, on pourrait donner les dates.
Les dernières, là.
Les dernières supplémentaires.
Mardi, le 18 février à 19h30 et mercredi, le 19 février à 20h.
Oui, on est chanceux. C'est vraiment les deux ce soir où il reste des billets. Le reste du temps, c'est vraiment complet.
C'est
fantastique. Qui va voir Nelly Gant? Je veux dire, qui est le public type?
Ben le public type, d'abord et avant tout au TNM, évidemment, ce sont les abonnés du TNM. Mais là, quand on parle d'une production qui a presque 10 supplémentaires, c'est sûr que là, ça veut dire que ça a débordé. C'est vraiment tout le monde.
C'est à ceux-là que je pense.
C'est vraiment tout le monde. C'est vraiment les gens qui découvrent différentes affaires, qui découvrent l'opéra, entre autres. Parce que c'est pas un opéra rigoureux, tu sais, où là, il y a des airs que tu comprends pas, de la musique que tu comprends pas. C'est vraiment extraordinairement romantique, hein, c'est la musique d'André Gagnon. Mais en plus, c'est une histoire qui nous touche. C'est notre histoire, c'est qu'on raconte. Et moi, je voulais la faire dans cette version-là avec des acteurs, des actrices, parce que justement, je voulais qu'on raconte l'histoire. On a voulu aussi réduire complètement l'orchestre. Au lieu d'avoir un orchestre symphonique puis tout ça, on s'est fait une version avec deux pianos et un violoncelle. Donc, le violoncelle, c'est l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine et qui parle un peu et qui chante comme la voix humaine.
Il y a eu tellement de grands violoncellistes.
Tellement.
Pablo Casals.
Oui.
Yo-Yo Ma.
Yo-Yo Ma, exactement. Mais on en a un extraordinaire ici, le jeune Stéphane Tétrault, qui est fabuleux.
Aussi. Oui, t'as raison.
Mais tout ça pour dire que j'avais le goût qu'on raconte l'histoire, puis que les gens repartent en se disant « ça se peut pas que ça soit arrivé pour vrai, cette affaire-là ». Et les gens peuvent voir aussi, dans le hall d'entrée du TNM, puisque ça a été retrouvé récemment, un poème inédit, manuscrit, d'Émile Nelly Gant, qui est exposé avec une photo d'Émile Nelly Gant à 61 ans, donc quelques mois avant sa mort. Il est décédé le 18 novembre 1941. Il allait avoir 62 ans le 24 décembre. Il était né le 24 décembre 1879. Donc, il y a quelque chose d'historique. Et on a fait après les représentations, des discussions avec les gens. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il y avait, à un moment donné, un soir, 4-5 personnes, une à côté de l'autre, des touristes français, qui, là, nous ont dit, écoute, moi, je connaissais absolument pas Nelly Gant. Je connaissais pas cette histoire-là. Mais là, je suis sous le charme, puis je suis en choc. Puis je veux en savoir plus, puis je vais aller... Il y a des super biographies, il y a des documents sur Internet qu'on peut trouver, mais tu sais, c'est vraiment une histoire d'un poète, d'un artiste qu'on a empêché de créer pour une raison bien... Il dit dans l'opéra, il dit « Je suis coupable de poésie ». C'est quand même terrible.
C'est quand même terrible. Et
c'est très beau,
en parallèle, il ne faut pas oublier l'importance qu'a eu la maladie mentale chez Émile Néligan.
Bien sûr.
À une époque où les ressources étaient pratiquement inexistantes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on les prenait, quand je dis « on les prenait », on prenait des gens qui souffraient de maladies mentales et on les enfermait. C'est pour ça qu'il y avait un terme...
Tous. Dans notre enfance, on se rappelle tous quand on entendait le nom Saint-Jean,
Saint-Jean de Dieu.
Là, c'était catastrophique, ça faisait peur.
Oui.
Ouais.
D'ailleurs, dans l'opéra, il y a un air qui s'appelle l'air de l'asile où Émile Néligan décrit aux vieux, décrit aux jeunes ce qui va lui arriver s'il continue à faire ce qu'il fait. Et c'est vraiment incroyable parce que il lui décrit le building, il lui décrit l'endroit.
C'était déjà un endroit, c'était déjà l'enfer.
Oui.
Juste le terme asile.
Mais je suis allé aux archives, toi qui adores l'histoire, les statistiques et tout ça. Je suis allé aux archives des Sœurs de la Providence qui s'occupaient donc de Saint-Jean-de-Dieu à ce moment-là. J'ai vu le grand livre quand Émile Néligan est arrivé et qu'on l'a inscrit. À l'hôpital. C'est un immense livre. Chaque ligne, c'est pour un patient. Et c'est sur deux pages. Et t'as l'arrivée, l'heure, le jour, qui est venu le reconduire, tout ça, sa mort.
Est-ce qu'on décrit ce qu'il y avait?
Et au bout de cette ligne-là, c'est tout le temps les raisons pour lesquelles ils sont là. Et dans le cas d'Émile Néligan, c'est écrit « démence juvénile ». Mais j'ai vu sur les lignes, là, des gens... quelqu'un, là, tu vois toute son histoire, puis au bout, c'est inscrit « imbécilité ».
Imbécilité.
C'est pas 300 ans, là.
C'est un diagnostic qu'on posait.
C'est fou, là, de penser ça. On est en 1930, à peu près.
Vous vous rendez compte?
Ouais.
Ce que tu me dis là.
C'est fou, hein? Ça donne un choc. Quand tu vois ça, t'es devant ce grand livre-là, ça donne vraiment un choc, un coup.
Marc, on va faire une pause et on va continuer de parler non seulement de Néligan, un succès remarquable. Je vous rappelle, dernière supplémentaire le mardi 18 février au TNM à 19h30. Une demi-heure plus tard, le lendemain, qui sera la dernière supplémentaire, mercredi 19 février. Et on parlera aussi des autres projets de Marc Hervieux. Alors, bien sûr, Marc Hervieux nous a beaucoup parlé de Néligan, Émile Néligan, et puis du succès obtenu, quand même, par une œuvre qui remonte déjà à 30 ans.
Oui. André Gagnon, c'est le 30e anniversaire cette année.
André Gagnon, le livret est signé par Michel Tremblay. Ouais. La mise en scène est signée
Normand
Chouinard. Mais l'œuvre remonte déjà à 30 ans.
Oui. Ça avait été en fait créé à Québec et à Montréal pour les maisons d'opéra, l'Opéra de Montréal, entre autres. Ça a gagné même aussi un Félix à l'époque, une scène d'archives du gala des prix Félix où André Gagnon reçoit le Félix et Bernard Uzan, qui était le directeur tyrannique de l'Opéra de Montréal, de cette époque.
Tyrannique.
Oui, je le dis avec grand bonheur
public. Ouais. Ben oui.
J'ai vécu son époque. Et était monté sur scène, un peu comme on a vu un scandale qu'on avait vu aux Grammys. Mais lui est monté sur scène pour l'enlever des mains à André Gagnon et dire c'est un trophée qui revient à l'Opéra de Montréal puis les autres avaient fait la commande. Et je me souviens très bien de ça. André Gagnon avait dit « Oh, vous pouvez le prendre, j'en ai plein à maison.
» C'est bon!
Quand même. Et André Gagnon, André Gagnon, et ça c'est Michel Tremblay qui m'a raconté ça, André Gagnon et Michel se cherchaient un sujet pour faire un opéra. Puis ils avaient exploré plein d'affaires, puis ils n'avaient pas trouvé encore la bonne affaire. Un jour, donc, Wyszynski, qui est le grand biographe de Néligan, lui, il a travaillé toute sa vie à refaire la vie de Néligan, et publie une nouvelle biographie. André Gagnon achète ça, lit ça, traverse l'autre côté de la rue au Carré Saint-Louis, ils étaient voisins les deux, va porter ça à Michel Tremblay et lui dit « On a notre sujet d'opéra ». Et Michel Tremblay lit ça et il me dit « Écoute, j'ai lu ça dans l'après-midi, là, les 50 premières pages. Je suis retourné voir André et j'ai dit « Oui, effectivement, on a l'histoire et je vais l'écrire en ordre chronologique ». Et ça a donné l'œuvre qu'on fait encore.
En tout cas, c'est vraiment un beau spectacle. Et d'ailleurs, Normand Chouinard, on l'a dit, qui fait la mise en scène. Normand Chouinard, qu'on adore.
Oui.
Moi, je vais te poser une question par rapport à... On a vu à RDI, cette semaine, les grandes personnalités, un reportage. Et on parlait de toi, évidemment. Il y avait une émission sur toi qui t'était consacrée, qui était extrêmement intéressante parce que tu es un conteur assez extraordinaire quand tu racontes des anecdotes. Et il y a, à un moment donné, plusieurs anecdotes que tu as racontées, dont une avec ton père, et j'aimerais ça qu'on l'entende. Juste, on va entendre, puis j'aimerais ça que tu commentes ça.
Quand j'ai 16 ans, je vais voir mon père, puis je lui dis, « Père, je sais qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je veux être un chanteur, pas un acteur. » Mon père, il dit, « Marco, je te vois très bien faire ça. Maintenant, qu'est-ce que t'aimerais faire pour gagner ta vie? »
Mais c'est ça,
mais
pareil.
Oui, c'est ça, pareil.
Parce que mon père m'a dit, sûr. Marco, c'est un hobby. C'est un hobby, ça, faire ça de la scène. Il faut que tu gagnes ta vie. Il faut pas que tu fasses comme moi. Mon père avait travaillé à l'usine de sucre Saint Lawrence Sugar.
Oh, oui, la Saint Lawrence Sugar.
L'Atlantique,
ben oui, c'est ça.
Il avait travaillé là toute sa vie sans métier pendant 42 ans. Puis au bout de 42 ans, un matin, on lui a dit, monsieur Hervieux, c'est fini. Il dit, écoutez, comment c'est fini? Ben, on n'a plus besoin de vous, c'est fini. Puis lui, ce qu'il voulait me dire dans ça, c'était, fais pas comme moi, tu sais, qui a travaillé fort, puis que finalement, au bout du compte, on n'a même pas de reconnaissance de ce que j'ai fait pendant toutes ces années pour une compagnie, tu sais, qui a fait de l'argent, puis qui... Alors, et c'est ça qu'il me disait. Mais en même temps, moi, j'avais ça dans la tête. Alors, je l'ai écouté, hein. Je l'ai écouté, je suis allé étudier en graphisme.
Alors, t'es étudié en graphisme, puis il faut dire que ça marchait.
Oui, ça
t'avais
marché.
Ta propre entreprise, ouais. Et tu
l'image
faisais
de marque.
Toute la publicité.
C'est beau,
de
c'est beau. Un bon jeu de mots, mais en même temps. Ouais.
Et tu faisais toute la publicité des commerces sur la rue
sur
Ontario.
Sur l'Ontario, ben oui, puis mon père faisait les livraisons pour moi. Et puis, mon père était le lien entre nous et les commerçants. Puis, mon père est décédé pas longtemps après ça d'infarctus, puis de début d'Alzheimer, puis tout ça. Vraiment, tu sais, c'est un souvenir fabuleux. Très honnêtement, là, à chaque soir, je suis sur la scène et je pense à Dollar. Mon père s'appelait Dollar. Puis, j'y pense à Dollar.
Est-ce qu'il a eu le temps?
J'aurais tellement aimé ça qu'il soit dans... tu sais quoi mon rêve le plus grand que je réaliserai jamais? D'être avec Dollar, là, puis de dire, « Hey, Dollar, mon père, là, hey, pa, je t'amène, on s'en va au hockey à soir. » Fait que je t'amène au hockey. Mon père est un fan fini. Mon père, il disait tout le temps, « Oubliez jamais une affaire dans la vie, il y a Dieu. » Puis juste au-dessus, il y a Maurice Richard. Puis de l'amener au hockey.
Pourquoi?
Puis là, qu'on soit assis dans les estrades, puis de dire à mon père, « Hey, je reviens. » M'en va chanter l'hymne national.
Oh, wow.
Ça, c'est dans ma tête. Là.
Arrête!
C'est dans ma tête.
Mais t'es allé déjà.
Je le chante encore.
Non, mais je veux dire, t'es allé avec ton père au hockey, j'espère.
Non, jamais.
Jamais?
Jamais. Parce qu'on n'avait pas l'argent. Tu sais, moi, mon père est décédé quand j'étais adolescent, fin de l'adolescence. Puis on n'avait pas l'argent.
T'es jamais allé, mettons, au forum.
Non.
Dans les grandes années du Canadien avec ton père.
Jamais. On l'écoutait dans le salon et je chantais en duo avec Roger Doucet l'hymne national. Alors, deux gros organes.
deux gros organes. Mais je dis tout le temps, déjà, chanter l'Au Canada, c'est quelque chose. Ouais. Mais le Star Spangled Banner.
Oui.
On a eu une jeune fille la semaine dernière, tu te rappelles?
Jennifer Bellrose.
Et on lui a demandé, juste avant qu'elle chante, au Centre Bell, elle a bien chanté d'ailleurs, es-tu capable de le monter, l'hymne national américain? Toi, avec ton organe, il n'y a pas de problème.
Ben, j'ai eu la chance de le faire
souvent.
Non, mais
ça prend de la ventilation.
Ça prend une bonne technique parce que, en fait, ce que c'est la tessiture. Tu sais, la tessiture est très grande entre la note la plus grave et la note la plus aiguë.
Alors, en sachant que tu vas la monter, mais c'est comme dans n'importe quelle chanson ou dans n'importe quelle air d'opéra, un chanteur doit savoir contrôler sa respiration en prévision des mesures musicales qui s'en viennent.
Exactement.
Faut pas en manquer.
En fait, tu sais, souvent, on peut voir dans différentes prestations à la télé, entre autres, quelqu'un qui va chanter un air d'opéra, puis on dit « Wow, il pourrait être un chanteur d'opéra ». Chanter un air d'opéra, puis chanter un opéra au complet, c'est vraiment différent. Justement, comme tu dis, Paul, c'est vraiment de réussir. Parce que la dernière note au quatrième ou cinquième acte, il faut qu'elle soit aussi belle que la note au premier acte. Et ça, il s'est écoulé 2h30.
Et
là,
ça, c'est l'art.
C'est ça, oui.
Non seulement ça, c'est que tu dois passer à travers un calendrier où, comme n'importe qui, comme nous, peut avoir une grippe, un virus, une sinusite, une bronchite.
Mais au-delà de ça, tout affecte la voix. Si dans la journée, tu t'es chicané avec ta blonde ou ta fille est à l'hôpital ou quoi que ce soit, t'es serré, on le sait, ça nous arrive, on va au bureau, puis on veut compter ça à un collègue, puis on a la voix complètement,
étouffée.
Alors là, il faut chanter. Dans le cas de Nelly Gant, d'ailleurs, tu sais, il y a des airs, par exemple, l'air de l'asile, on en parlait un peu plus tôt, où il est extrêmement émotif en parlant de ça. Mm-hmm. Il est apeuré, il est effrayé. Il faut justement être capable d'amener cette émotion-là, mais en même temps de chanter les notes. T'sais, donc, ça, c'est vraiment le parcours d'un chanteur classique, t'sais, où on a appris vraiment une technique vocale qui fait qu'on est capable de passer par-dessus ça, même la maladie, effectivement.
Exact, parce que tu as eu cette formation classique où les grands opéras sont souvent tragiques.
Exactement.
Alors, il faut savoir jouer et chanter.
Oui. Puis j'ai été extrêmement chanceux. J'ai eu une formation d'exception. D'ailleurs, hier, on était à la Maison symphonique à parler de la fin de la campagne de financement des conservatoires. Moi, j'ai étudié d'abord et avant tout 5 ans au Conservatoire de musique de Montréal. Et puis, c'est une formation d'exception. Tu sais, faut le dire, ça, parce que c'est ici. C'est des conservatoires. Il y en a 7. Il y en a dans différentes régions au Québec, entre autres, forcément à Montréal et à Québec, mais aussi à Val-d'Or, autant qu'à Chicoutimi. Et ça forme des musiciens, les musiciens de demain. Quand on pense au conservatoire, puis par exemple qu'on pense à l'Orchestre métropolitain, plus de 50% des musiciens de l'Orchestre métropolitain ont été formés au conservatoire.
Extraordinaire.
Yannick Nézet-Séguin, qui nous fait un honneur partout sur la planète et qui présentement est probablement un des 3 plus grands chefs d'orchestre, a été formé au conservatoire dans ces mêmes promotions que moi, d'ailleurs. Ouais. Fait que je m'en vante un peu. Je me sers de lui.
J'allais le dire, justement, parce que toi, quand t'es rentré au conservatoire, t'es rentré sur le tard un peu, évidemment. Alors, t'es rentré, t'avais 20-quelques années,
23 ans.
Et tu t'es présenté à un cours avec Mme Bégin. Oui. Tu racontes ça, t'es rentré là. T'es rentré à 23 ans au conservatoire où il y avait des gens qui étaient habitués. T'es arrivé devant Mme Bégin et t'avais un examen à passer.
Oui, l'examen de solfège.
Et alors?
En fait, j'avais été classé en 3e année pour la voix. J'avais auditionné. Puis la semaine d'après, il fallait faire les auditions pour être classé en dictée musicale, en solfège et tout ça. Alors, je rentre dans le local de Mme Bégin, qui était la professeure de solfège, qui m'était attitrée pour l'examen d'entrée. Et là, il y a un lutrin avec une feuille de musique. Et Mme Bégin dit tout simplement, « Allez-y, Monsieur Hervieux. » J'ai dit, qu'est-ce que...
Allez-y où?
Oui, c'est ça, où c'est qu'on va? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle m'a dit, il faut solfier la musique qui est sur le... J'ai dit solfier, je savais même pas c'était quoi ce verbe-là. Solfier. Ouais. Elle dit, il faut chanter ça. Mais je dis, madame, il y a même pas de parole sur votre chanson. Mais c'était ça pareil. Donc, c'était aussi de prendre les bouchées doubles, vraiment, pour y arriver, y croire, tu sais, croire à quelque chose, puis dire, hey, je vais le faire.
Alors, Marc, non seulement t'as pris les bouchées doubles, dans le sketch de Marc Labrèche, t'avais les bouchées triples. Mais, écoute, on est très content de voir que c'est un succès. Nelly Gant, souvent, moi, je fais un parallèle. Attention, je dis avec prudence, avec André Mathieu.
Non, mais c'est juste.
Parce que Alain Lefebvre est celui qui a été le porteur de la mémoire musicale, mais aussi personnelle, de quelqu'un qui a connu aussi un parcours très difficile, André Mathieu.
C'est juste.
Mais une œuvre remarquable.
Une œuvre grandiose.
Grandiose.
Mais encore là, Alain s'est battu pour faire reconnaître le talent. Et encore là, son talent a été reconnu à l'extérieur avant d'être reconnu ici.
Comme en Europe.
Mathieu.
Ouais.
C'est quand même... Il y a quelque chose de fâchant quand même là-dedans.
Il y a aussi une leçon. Peut-être à retenir. Mais justement, en allant voir Nelly Gant, et même si vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir vous imprégner de ce qui a été sa courte vie, finalement.
Oui, c'est ça. 3 ans de vie de création.
De création.
41 ans d'internement.
Merci beaucoup, Marc.
Tellement un plaisir.
C'était un plaisir.
Merci.
Et, le plaisir est pour nous.
On va garder notre ami François, parce que Martin McGuire est en conversation en ce moment. Il ne pouvait pas nous parler. Il est en conversation, je crois, avec... Marc, avec le coach.
Oh,
avec
Claude Julien.
Alors donc, on se parlera François après.